Chers amis, Hachem Alechem Tihyou, Léorichem Zivin Shalinaimim. Nous poursuivons notre étude, notre lecture des psaumes. Nous sommes arrivés au psaume tête numéro 9. Alors nous allons voir que dans ce psaume, David poursuit son ascension dans la louange à Kadosh Baruch Hu. Nous avons vu que dans le psaume précédent, il louait l'Éternel Tout-Puissant du dévoilement qu'il perçoit, des lumières qu'il perçoit dans la création elle-même. Et là, David va aller de l'avant, va aller au-delà de cela, par rapport à sa relation aux autres, par rapport à la relation à ceux qui lui veulent du mal, par rapport à la relation, comment Akadosh Baruch Hu va le préserver, parce que dans le monde du chapitre 8, il s'agit du monde brut, sans individu. Alors que là, dans le chapitre 9, il s'agit de sa relation à ses ennemis. Alors David va se dévoiler comme roi d'Israël, comme dirigeant, comme un homme important, et il va susciter des convoitises, des jalousies, des ennemis contre sa personne et contre le peuple. Donc il va devoir lutter. Et à travers toutes ces expériences, il va constater et la présence de Dieu, Kadosh Baruch Hu va le préserver de tous les dangers. Et c'est cela, le concept même de ce neuvième psaume. Alors il dit, la menatseah étant toujours la victoire, le chef de guerre qui harangue, il transmet sa conviction, sa force, son énergie à ces soldats qui vont aller au combat. L'amnatia, almot, laben. Alors ce mot laben, alors à quoi fait-il allusion? Il ne s'agit pas évidemment de son fils. A priori, il ne s'agit pas de son fils. Et certains disent qu'il y avait un roi ennemi, méchant, qui est venu avec une armée puissante contre David et qui a été battu, éliminé, et lui-même a été tué. Et les Mfarshim essayent de trouver. Alors, il y a ici une difficulté, c'est que cette histoire-là n'est mentionnée dans aucun texte. Dans le Navi, c'est pas mentionné. Donc, on a une difficulté. Certains disent qu'il s'agirait de Goliath, le grand Philistin qui est appelé Laban. Moi, il me semble, a priori, je ne sais pas si c'est juste, qu'il s'agit de Naval, parce que le mot Laben fait référence à c'est les mêmes lettres que à l'envers, quand on le lit à l'envers. Nun, Bet, Lamed, c'est Nabal. Naval, c'est cet homme, le mari de Abigail, que quand David était en fuite, et qu'il avait déjà été nommé roi, il était en fuite devant Shaoul avec les hommes qui l'accompagnaient. Il est parti lui demander de lui donner quelques pains et de l'eau, et des victuailles, de la nourriture. Et Naval l'a méprisé, l'a insulté. Et il a refusé de lui donner. Et là, Naval a agi, a offensé le roi. Parce que David était déjà loin. Donc il méritait la mort. Et donc il s'est levé. Pour aller, quand les soldats sont revenus, on dit à David ce qu'il a dit, il est parti pour le tuer. Il vient à sa rencontre Abigail. Et là, c'est la discussion, la fameuse discussion qu'il y a entre Abigail et David qui le dissuade et lui apprend qu'on ne juge pas la nuit. Que s'il mérite la mort, il mourra, etc. Et au bout de 10 jours, il est mort. Donc c'est exactement les 10 jours de pénitence, le pasuk dit qu'au bout de 10 jours, il est mort. Akadosh Baruch Hu l'a sanctionné, et on mentionne cela en faisant allusion aux 10 jours de pénitence. Alors c'est ce qu'il dit. L'amnatiah almot laban. Mizmor les David. Mizmor, après qu'Akadosh Baruch Hu a éliminé tous les ennemis, quand on est assailli d'ennemis. Imaginons David qui est en fuite et qui a un bonhomme là qui le méprise, qui l'insulte. Donc il se sent blessé. Donc il dit je vais il est passible de mort, je vais l'éliminer. Les paroles de Naval font trace, laissent une trace sur David. Et David, qu'est-ce qu'il fait? Il est l'amnatiar, il surmonte ça. Il arrive à surmonter, comme si il n'est pas touché, il dépasse là. Et ensuite, en dépassant cela, il s'aperçoit que Naval est mort. Alors, à ce moment-là, quand il voit que Naval est mort, alors il va élever une louange extraordinaire à Hachem encore plus haute, jusqu'au moment où il va atteindre l'extase et il va avoir l'inspiration. Alors, c'est ce qu'il dit. Ode Adonai Bechol Libi. Je loue l'Éternel. Je rends grâce de tout mon cœur. Ici, il est annoté, Bechol Libi. Alors que souvent, il est dit, le cœur est appelé au pluriel. Levavra, comme on dit dans le schéma. Ici, Libi, au singulier. Comme si que le cœur de David a atteint la perfection. Nous disons que dans le cœur, il y a deux ventricules, un à droite, un à gauche. C'est le bon penchant et le mauvais penchant. Le désir de faire le bien, les bons sentiments, le bien-être. Et d'autre côté, toute l'anxiété, toute la tourmente, etc. Là, David a réussi à faire que son cœur ne soit qu'un seul, un seul cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'extase, la partie gauche du cœur de David, s'est fondu, fait partie de la partie droite. À Sapera kol nifloteha, de tout mon cœur, je raconterai, je proclamerai toutes les merveilles que tu fais. Kol nifloteha. Qu'est-ce que ça veut dire le niflot? Voilà qu'il lui a fait qu'une seule nifla, Pélé. Il a fait une seule merveille. D'abord tué Naval. Il y a un homme, nous disent les Mfarshim, quand un homme, il y a fait pour chacun, des milliers et des milliers de prodiges, de merveilles, mais l'homme ne s'en aperçoit pas. Il passe. Mais quand ça lui arrive, il s'en rend même pas compte parfois. Et quand ça arrive, quelque chose d'extraordinaire, alors il prend conscience que Hachem a agi en sa faveur, qu'il a préservé quelque chose d'extraordinaire. Il en prend conscience. Alors à ce moment-là, il prend conscience de tous les autres. Toutes les autres prodiges que Hachem a fait en sa faveur. C'est ça, c'est pour ça que c'est marqué au pluriel. À travers cette histoire-là, de la mort, de ce rachat, David prend conscience de tous les prodiges, les merveilles que Hachem a fait en sa faveur depuis la nuit des temps, depuis le début de son parcours. Alors il ajoute, il dit, « Esmeha ve'aletza bach » Je me réjouirai, j'exulterai, c'est la joie à l'extrême. Vazam azamera shimcha, je chanterai ton nom. Ton nom suprême, shimcha elyon. Le nom de Dieu, c'est sa volonté. Le nom de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il y a Dieu et il y a son nom. Comme on dit dans la tfila, atakadosh, shimcha kadosh. Est-ce que Dieu, c'est son nom? Non, le Dieu, il s'appelle Ensof Baruch Hu. Le sans fin béni soit-il, parce qu'on n'arrive pas à le définir, il est insondable, inaccessible. C'est Dieu lui-même est inaccessible. Comment nous pouvons appréhender et comprendre? Par son nom. Son nom, c'est l'expression de sa volonté. C'est ce qui est dit ici. Azamera Shimcha le Elyon. Je chanterai ton nom. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je chanterai ton nom, Dieu suprême. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va chanter sa Torah, la volonté de Dieu, il va la chanter. Il va glorifier chaque mitzvah. Alors c'est ça que ce que fait David. Chaque fois qu'il va faire une mitzvah, il va chanter. Il prend le talit pour se s'envelopper avec. Alors il chante. Comment il chante? Il chante, ah, je suis heureux d'accomplir cette mitzvah. Il chante la mitzvah. Et quand il fait la bracha, il chante. La bracha qu'il fait quand il met le talit avant de mettre la mitzvah, il la chante. Ça devient une mélodie, tout est un chant. Le chant transforme la mitzvah en quelque chose d'élevé, extrêmement subtil dans la spiritualité. Esmeha, c'est la joie. Et après, elle dépasse. Ve'aeletza, becha, bach. Et j'exulterai. C'est-à-dire, il communique sa joie. Il déploie. Alors c'est ça, la question est comme ça. Véritablement, la question est comme ça. Sommes-nous rayonnants? Quand nous sommes à la synagogue, nous accomplissons Torah Mitzvot. Nous devons être rayonnants. Rayonnants. Pourquoi? Parce que si quelqu'un passe dehors et nous voit à l'intérieur, Il dit, ah, mais c'est quoi ça? Ils sont rayonnants, ces gens-là. Ils ont la sérénité. Ils sont épanouis. C'est la joie. C'est le bonheur. Alors, je veux moi aussi être comme eux, rayonnant de bonheur. Il est dehors dans le monde de la rue, dans le monde extérieur, et il est triste, tourmenté, problème, etc., etc. Il voit un chacham, il voit un juif qui est à la synagogue, qui fait la Torah et les mitzvot, il le voit rayonnant, exultant de joie, joie de vivre, d'accomplir la Torah et les mitzvot. Il dit, je veux être comme lui. C'est ça, Ve'alet Tzabach. Azamera Shimcha Elyon. Donc chaque mitzvah, c'est un moyen, c'est une symphonie, c'est une mélodie, c'est un concert à la gloire de Dieu. Je rayonne. Quand un musicien fait sa musique, s'il n'a pas envie de jouer, alors il va faire des fausses notes. Le son là, ne sera pas bon à entendre, ne sera pas agréable. Si quelqu'un, un chef, il n'a pas envie de faire sa cuisine, alors ça aura mauvais goût, etc. Donc c'est l'ardeur, la passion que l'on met dans l'accomplissement des mitzvot. Quand on enseigne la Torah, plus que l'enseignement lui-même, c'est la passion que le maître a et transmet à ses élèves. C'est ça qui va rester, c'est cette flamme qui va traverser et qui va atteindre celui qui entend le Dvar Torah et ça va lui donner la force de lui-même aller de l'avant. C'est ça, Ve'al Tzabach. Bishuv Oyvay Achor. Quand mes ennemis reculent, ils lâchent pied, ils lâchent prise et ils reculent. Ils cachent le Oveyov Dumipanecha. Ils reculent, ils trébuchent et ils disparaissent de ta face. Ça veut dire que celui qui fait la guerre en maître, celui qui va à la rencontre du danger, David va à la rencontre du danger, mais c'est pas lui qui gagne la guerre, c'est Hachem qui va et qui le précède, qui fait la guerre à sa place. Et ça, David, il est conscient de cela. Comme il est dit, il y a quatre rois, chacun a demandé quelque chose. Il y en a un qui a dit, Seigneur Dieu, je n'ai même pas la force de prier, moi je vais dormir et toi tu t'occupes des ennemis. Ça, c'est Hizkia Wamela. Il y en a un autre qui a dit, Seigneur Dieu, moi, je prie, je n'ai pas la force de combattre, mais je prie. Il y en a un autre qui a dit, Seigneur Dieu, moi, je poursuis mes ennemis, c'est toi qui les tues. Et David, il dit, Seigneur Dieu, c'est moi qui poursuis mes ennemis, c'est moi qui les détruis. Alors les maîtres nous disent, pourquoi? Alors David, quel est celui qui a le plus confiance en Dieu? Alors tout le monde pourrait croire que c'est celui qui est parti dormir sans même pas prier. Il dit, Dieu, tu débrouilles. Il a une confiance. Eh bien non, celui qui a le plus confiance en Dieu, c'est David. Parce que lui, David, il agit, il poursuit les ennemis, il les détruit, et il sait que ce n'est pas lui qui l'a fait. C'est la madriga la plus haute. C'est ça ce qui a marqué ici. C'est toi qui les a détruits, ce n'est pas moi. Qui a cité un mishpati védini, yashavta le kissé chauffet tzedek. Oui! Tu as fait, asita mishpati vedini. Oui, tu as fait triompher mon jugement. C'est mon jugement, c'est ma cause, c'est mon côté qui a gagné, mais ma part qui a emporté. Yashavta, les qui s'est chauffé de ses deg, pris place, tu t'es installé sur ton trône, en tant que juge d'Ekita, parce que tu sais qui je suis, tu sais que ce que je mérite. C'est comme ça que, la preuve, c'est qu'Akash Bourou lui a donné, lui a fait, et il l'a placé au-dessus de tout. Malchut ben David, le Mashiach, il descend de David, c'est David le Mashiach. Ga'arta goyim ibata racha. Tu as crié sur les peuples, les nations. Ils ont été perdus. Le seul fait qu'Akash Bourou, il crie sur eux, ils disparaissent. Et qu'est-ce qui disparaît? Le méchant disparaît. Shema Mahita, le Olam, tu as effacé leur nom à tout jamais. C'est le nom, comme il marqué, Imar Shema Vezicham de Rechaim. C'est-à-dire, leur nom est effacé. Il n'est même pas prononcé. Il n'existe pas. C'est-à-dire, il ne laisse rien en ce monde. Même pas le souvenir. Il n'y a rien. Il ne restera rien de ce qui est mauvais. Déjà, de notre temps. Déjà, même celui qui a fait du bien, il reste que des vestiges de ce qu'il a fait s'il a vécu à 1000 ans. Mais même celui qui a fait le mal, il disparaît. Il n'a rien de réel. Il n'apporte rien au monde. Il n'y a rien de cela qui va sortir. Aoyev, tamu horavot. Est-ce que l'ennemi a disparu par l'épée éternelle? La netza, pour toujours. Ve'arim natashta avazicham hema. Les villes, tu les as détruites, démolies. Ça veut dire, elles sont vides de population. Elles sont abandonnées. Ville fantôme. Et même le souvenir a disparu. Là, on voit véritablement qu'est-ce qu'il reste de la méchanceté. Qu'est-ce qu'il reste de la méchanceté? La méchanceté, l'égoïsme, la suffisance, le désir de faire du mal à autrui, le pouvoir, tous ceux qui ont cherché le pouvoir pour le pouvoir, il n'y a rien qui reste. Ils ont construit des empires qu'ils ont laissés pour les autres, mais eux ont disparu, ils n'ont rien et n'ont même pas laissé une trace dans ce monde. Vadonai le Olam Yeshev. Mais Hachem, il est éternel. Ça, il s'installe pour l'éternité. Ce qu'il accomplit est éternel. Il établit, il cible, il établit, il érige pour l'éternité, pour le jugement, son trône. Son trône, c'est le trône de la droiture. Il jugera le Tevel, c'est la terre entière, avec droiture. Yadin leumim bemesharim. Et il prononcera une sentence sur les nations. Là, la sentence qu'il mérite, la sentence juste. Akadosh Baruch Hu ne viendra pas. En Akadosh Baruch Hu ba betrunia imbriotav. Akadosh Baruch Hu ne vient pas agir contre ces créatures en faisant des trafics pour. En faisant des prétextes, il est droit, honnête devant dans le jugement et dans son action vis-à-vis des hommes. Le trône de Dieu est incomplet. Nous disent Chachamim qui a dal kesia milham al Hashem ba Amalek. La guerre contre Amalek se fait de génération en génération. Donc tant que le trône, il est incomplet. Tant qu'Amalek existe, il y a une coupure dans le nom de Dieu. Yodke, Vavke, il est coupé. Il y a une coupure. C'est-à-dire que le trône de Dieu, qui est son nom, n'est pas établi parfaitement. Donc, Akadosh Baruch Hu prépare ce qui sait Kavod. Il le prépare au fur et à mesure du temps qui passe. Il érige, il établit. Alors, quand viendra le jour où Amalek disparaîtra, alors Akadosh Baruch Hu pourra juger les nations, selon ce qu'il est, et leur ouvrir la porte, parce qu'il est possible, même pour les nations, Akadosh Baruch Hu ne cherche pas, Bemot, Racha. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que le Racha meure, il veut que le Racha, il s'amende, il fasse Tshuva, il arrive à revenir, à se reprendre, et à faire Tshuva. Même les nations. Alors, il leur laisse toujours une porte de sortie. Vaïe, vaïe, Adonai misgav ladach. L'Éternel, il est le refuge pour le malheureux, pour le pauvre, pour l'exclu, pour celui qui est brisé, celui qui est broyé dans les souffrances, dans les souffrances de ce monde. C'est Akadosh Baruch Hu qui, alors, implore le Seigneur, c'est lui qui est misgav ladach. Plus l'homme, il est faible, plus l'homme, il est bas, plus l'homme est exclu, plus l'homme, il a des problèmes, et plus Akadosh Baruch Hu, il est proche de lui. Il est, et ça fait référence à Am Israël pendant le Galout. C'est le refuge, l'abri fortifié, la citadelle, qui est en haut de la falaise, pour tous les temps, où il y a une détresse. Donc la détresse, elle est longue, elle n'est pas totalement continue, sans cesse. Mais il y a des moments de détresse. Alors dans les moments de détresse, il y a des moments où on respire, des moments où il y a des difficultés. Alors c'est pendant les moments de difficulté qu'il faut aller au plus haut, se réfugier dans la forteresse, la citadelle qui est en haut de la falaise. Quelle est-elle? C'est chercher la présence de Dieu et sa proximité, chercher son aide. Ceux qui ont confiance en toi, qui connaissent ton don, alors ils auront confiance, ils sont fidèles à toi, ils confient leur sort, leur destinée entre tes mains. Parce que jamais, Jamais Akadosh Baruch Hu n'abandonne ceux qui le recherchent. Il ne les délaisse pas. Il ne les laisse pas abandonner totalement, comme s'ils livraient à eux-mêmes, ou livraient aux aléas de l'histoire. Jamais, jamais ça s'est passé. Et ça, jamais ça se passera. Même s'il nous semble que parfois, c'est une réalité, mais c'est une erreur. Parce que même dans les situations les pires, ceux qui ont eu confiance totale en Hachem, Hachem a agi pour sauver celui-là et sauver l'autre, etc. Tout est une question de confiance. Tout est une question de fidélité, de conviction. Alors réclamez, d'orchera, ceux qui te recherchent. C'est pas ce qui l'hydrange, c'est Hakira. Aller au-delà des limites qui sont imposées par les règles de la nature. Aller chercher Hachem et son aide au-delà de ce qui est rationnel, raisonnable. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il le trouve. Quelqu'un qui a un proche qui a fait un arrêt cardiaque ou un AVC. Alors les médecins, ils disent, il n'en a pas pour longtemps. Alors, s'il croit que c'est une réalité, eh bien, il est perdu. Il n'y a pas, c'est pas le médecin qui fixe, c'est pas la médecine qui va fixer quand est-ce que cet homme-là va vivre ou va mourir. Alors, justement, c'est là, quand la médecine n'a plus de possibilité de sauver la personne, elle arrive à ses limites. Eh bien, il n'y a pas de limite pour Dieu, Ayad, Hachem, Tirksa. Est-ce que la main de Dieu est coupée, raccourcie, est limitée? C'est là, justement, c'est là où la fenêtre, et on dirait qu'il y a une muraille devant la personne, une muraille infranchissable. Et c'est le bitachon, la confiance, la conviction en la foi, Hachem, qu'Hachem peut tout, c'est là que la fenêtre s'ouvre et la lumière jaillit. Zamero l'Adonai, Yoshev Tzion. Célébrer, chanter, célébrer l'Éternel, Yoshev Tzion, qui est installé sur Tzion. Tzion étant le terme qui signifie que la flèche qui indicatrice. Le Tzion d'en bas, Tzion ça veut dire un poteau indicateur. C'est, on fait un Tzion sur le Tzion, c'est la plaque tombale. La plaque tombale signale qu'ici il y a un mort. La plaque, la flèche indicatrice, on dit, voilà, vous êtes à tel lieu. Dans telle direction il faut aller. Alors, Tzion, c'est en bas, ça indique où est Dieu en haut. Jérusalem d'en haut. Le Jérusalem d'en bas, il s'appelle Tzion. Et le Jérusalem des cieux, là où réside le Seigneur Tout-Puissant, il est indiqué. Alors, c'est ici. C'est là qu'il faut prier. C'est là qu'il faut s'adresser à Dieu. Zamerou la donne, chef Tzion. Agidouba Amim Alilotav. Proclamé parmi les nations, toutes ces puissances, comment Akadosh Baruch Hu, il agit. Et là, c'est marqué quelque chose d'extraordinaire. Tout celui qui a été secouru, qui était dans une situation difficile, il a imploré le Seigneur et il a été sauvé. Il a vu la main de Dieu qui l'a préservé. Il a vu la main de Dieu qui l'a guéri. Il a vu la main de Dieu qui lui a répondu. Il est sorti de toutes sortes de situations. Il se doit de se lever, de raconter cela, de proclamer. Regardez, ayez la confiance en Dieu. J'étais à tel endroit, j'étais assailli, j'étais presque perdu. Et Hachem m'a sauvé. Je sais que c'est Hachem qui m'a sauvé. Et il proclame ça, et automatiquement, il encourage les autres. C'est ça ce qui est marqué ici. Agidou ba'amim alilotav. Proclamez ces merveilles qu'il a fait à tous les peuples. Parce que tu en as fait l'expérience. Alors vas-y! Il faut proclamer, il faut le louer. Qui doresh damim otam zakha. Car celui qui réclame le sang, qui venge le sang, du rachat, c'est-à-dire il venge le rachat. Il se venge sur le rachat. Si le rachat, il a fait du mal au tzadik, il a été assailli. Akadosh Baruch Hu ne le laisse pas. Il va le venger. On voit que, par exemple, que lorsque le tzadik, il est agressé par le rachat, Akadosh Baruch Hu va préserver le tzadik plus qu'il ne préserve son propre honneur à lui. Akadosh Baruch Hu va agir de manière miraculeuse, prodigieuse, pour sauver celui qui, pour venger, pour sauver, pour préserver celui qui a confiance en lui. Comme il s'est passé pour le prophète Ido, quand il vient devant Jéroboam ben Nevat, et il lui dit ce qu'il lui dit, il le met en garde, Et à ce moment-là, Jérobonin tend le bras pour le saisir et le frapper. Alors à ce moment-là, son bras se paralyse, etc. On dit, mais voilà que Jéroboam, à l'instant même, il était en train de profaner le nom de Dieu. Il faisait un sacrifice aux idoles. Pourquoi Dieu n'a pas réagi quand il s'agit du sacrifice des idoles? Il dit, non, Akash Bokhou, pour lui-même, il agit pas. Mais pour le sadique, si le méchant, il veut faire du mal au sadique, là, il agit. C'est ça ce qu'il dit. Kidorech Nami, Motam Zachar. Parce que c'est la vengeance qu'il a fait pour le sadique, il s'est souvenu. Il n'oublie point, il n'oublie pas le cri des malheureux, ceux qui sont affligés. C'est là qu'il faut élever ses cris. Quand la tila du malheureux, elle a une puissance extraordinaire qui transperce toutes les murailles, tous les cieux, tous les écrans. Alors David dit, « Honeni Adonai, aie pitié de moi, accorde-moi ta grâce. Gratuitement, je ne mérite pas, éternel. » Ré-e-oni, regarde ma misère, la situation dans laquelle je suis. Ré-e-na-be-oni, nous on dit dans la prière. Mison-ai, de ce que la misère que me font mes ennemis, ceux qui veulent, ils me veulent du mal. Alors ça peut être ou bien des ennemis physiques ou des ennemis spirituels, des kohatouma, le etzerara, etc. Les tourments de la vie, les difficultés de la vie, les anxiétés. Ou bien les gens à l'extérieur, ceux qui me veulent du mal. Regarde ce qu'ils me font, ils m'empêchent de m'élever spirituellement. Ils m'empêchent de faire les mitzvot. Ils m'empêchent de me consacrer entièrement à ton service. Ils m'empêchent de vivre ma spiritualité, mon attachement à Hachem. Mais Romé Mishar Mavet, toi tu m'as enlevé des griffes de la mort, des portes de la mort, tout ça, les anxiétés, les tourments, les dépressions, l'angoisse, etc., l'inquiétude, le mal-être, tout ça, ce sont les griffes de la mort qui m'accrochent, qui essayent de me saisir. Et toi, Hachem, dès que je t'ai imploré, tu m'as sauvé, tu m'as détaché, tu es venu toi-même te jeter, tu m'as arraché à leurs griffes. Les manas sapera colte ilatera. Tout ça, je le fais afin que je puisse raconter toutes tes louanges comme il se doit aux portes, dans les villes, aux portes des villes d'Israël. Bechare Batzion. Batzion fait allusion aux villes d'Israël. Rentre dans les synagogues, je vais vous raconter mon miracle. Je vais vous raconter dans quel état j'étais, comment Hachem m'a sauvé. Agila Beshoatera. Et alors à ce moment-là, je serai pris d'allégresse par la délivrance, le salut que tu m'as octroyé. Et non seulement je suis pris d'allégresse, et je transmets cela, ça encourage les autres. Tavo goyim bashahat. Les peuples, ils ont été avalés par le piège lui-même, par le précipice, par la profondeur du trou qu'ils ont creusé. Pour me faire tomber. Tabou, ils sont noyés, ils ont été immergés. Goyim bechahaz asu bareshet zutamanu. Nilkeda ragam, les pièges que ils m'ont fait, c'est eux qui sont tombés dedans. Comme le bâton, le poteau que Aman il a fait pour Mordechai, c'est lui qui a été pendu dessus. Et c'est le pied des Rechaim, il s'est pris dans le filet qu'il a tendu pour moi. Lui, il m'avait tendu un filet. Il m'a fait un piège avec un filet, un piège. Et c'est lui qui est tombé dans son propre piège. Comment est-ce possible? C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il dit que Akadosh Baruch Hu n'abandonne pas le tzaddik. Si tu es méritant, rien ne t'arrive. Le type, il fait la bombe et elle lui explose à la figure. Il envoie un missile, ça lui retombe sur la tête. Odu l'Hashem Kitov, qu'il est Olam Hazo. Noda Adonai. Mishpat asa befor al kapav nokesh racha igayon cela. Noda. Alors ça s'est dévoilé. Tout ça s'est dévoilé. Le jugement d'Hachem. Ah, et comment? Quand il a fait le jugement sur les Rechaim. Alors le rachat, il s'est fait prendre au propre piège qu'il a voulu me tendre. Il est en train de mettre une bombe à lui exploser à la figure. Il a fait un piège et il est tombé dans son piège. ses propres actions qu'il a fait contre moi et se retourner contre lui. Alors il te dit, faites attention à ça. Donc, Kesh Racha et Gayoncela. Le piège, alors comment c'est possible que le piège qu'on me prépare et se retourne parce que Kesh Racha, il ne t'abandonnera pas. C'est là, il y a le sens ici, de la Negina. C'est comme nous l'avons déjà dit, que le mot c'est là, dans ces paroles-là, ces vers, ces versets, doivent être accompagnés d'une musique. Donc c'est là, c'est les symboles musicaux, le ta'amim, les symboles de cantillation. Alors, mais là, il est... Le mot Sela signifie qu'il est, que la cantillation, elle a pris la forme d'un mot. Elle fait partie du texte. Elle porte. On peut dire la louange de Dieu en disant un poème, on peut le chanter. Et on peut l'exalter. On peut l'accompagner de musique, etc. C'est ça ce que signifie le mot Sela. Alors à ce moment-là, la valeur de ton poème, de ta louange, elle est doublée, décuplée, amplifiée, elle a une puissance exponentielle. Yashuvu Rishaim Lishola. Les Rishaim, ils tomberont dans les profondeurs des ténèbres, les profondeurs, le Sheol, c'est le gouffre dans lequel se seront absorbés les Rishaim. Kol goyim, shekhe Elohim, tous les peuples qui auront abandonné, oublié Akadosh Baruch Hu, tout cela, comme il est dit au sujet des Romains, on a fait des routes pour les Juifs. Non, vous avez fait des routes pour vous, vous avez fait des bains pour vous. Eux, ils n'ont pas fait ça pour servir la Kedusha, ils n'ont fait que pour eux. Mais en vérité, on le voit, c'est ça le sens du texte, que tout ça a servi quelque part. Voilà. Donc eux, ils ont fait dans une intention, mais nous, on s'en sert pour faire la Kedusha. Donc on prend tout ce qui a été fabriqué par les nations dans ce monde à des fins autres pour leur pouvoir, leur gloire, etc. Et on récupère ça, ces énergies-là, et on les canalise vers la Kedusha. Kilo la Netzarishachach Evion. Jamais le malheureux Israël, le Mashiach, lui ici, il est considéré comme étant un malheureux, puisqu'il est assis à la porte de Rome, et il est parmi les exclus, donc il est repoussé. Il ne sera jamais oublié de manière éternelle, sans retour. Tirvad Aniim, Tovadad. L'espoir des affligés, des malheureux, de ceux qui sont modestes. On lit Aniim, mais il est écrit Anavim. Les modestes. Donc il y a un lien entre ceux qui sont modestes et ceux qui sont pauvres. Donc on peut être riche et modeste, donc on est considéré comme quelqu'un qui est rien. Donc l'essentiel, c'est pas la possession. Est-ce qu'on est socialement riche ou pauvre? Est-ce que intellectuellement, dans les midotes, on est modeste? C'est-à-dire on se réduit à zéro? Alors celui qui se réduit à zéro, quelle que soit sa richesse, alors jamais son espérance, son espoir sera vaine. Jamais c'est perdu pour eux. C'est pas perdu, ça se réalisera. Kuma Adonai, que l'Éternel se lève. Aliaoz Enosh, que l'homme, le Enosh, c'est-à-dire c'est Stam, le fils de l'homme, le simple homme, l'homme fait de cet être vil, qui est une Stam, un homme fait de terre, de chair et de sang, que lui ne triomphe pas. Yishpot, Yaron, ça veut dire il se glorifie. Yishavtu goyim al panecha. Les peuples seront jugés devant toi, devant ta face. Shita Adonai Moralaim. Alors que Jbuchou, il va les envelopper, il va faire tomber sur eux la crainte totale. Ils seront tremblants, l'effroi. C'est Dieu les dominera totalement. Yadou goyim enosh emasela. Ils seront alors que tous ces peuples-là, les peuples, les Rechaïm, les puissants, ceux qui pensent qu'ils détiennent le pouvoir absolu, qui sont au-dessus, très haut, dans l'échelle, en haut de leur tour d'ivoire, intouchable, la puissance totale est concentrée entre les mains, et ils se prennent, comme il est marqué au sujet de Hiram, le roi de Tsor, qui a cru qu'il était Dieu, il s'est pris pour un Dieu. Ou bien Pharaon, Alors, ces hommes-là, ils ne croyaient pas qu'il s'agisse des gens dans l'Antiquité. Les gens aujourd'hui, il y a des gens qui se prennent, qui ont un petit pouvoir minuscule et qui se prennent pour Dieu. Ils prennent sa place dans le domaine dans lequel ils évoluent, un chef d'entreprise ou un directeur d'école, vis-à-vis tout celui qui a quelqu'un en dessous de lui. Alors, dans la hiérarchie, il se comporte envers son subalterne. On dirait que lui, c'est Hakadosh Baruch Hu. Que chaque homme sache qu'il n'est qu'un homme, qu'il est mortel, qu'il est rien, que quand on met un homme, quelle que soit sa puissance, son poids, son intelligence, on le met dans la tombe, au bout de quelque temps, il reste rien. Son corps se décompose et il ne reste rien, il laisse rien derrière lui. Et même les os, quand on reste longtemps, les os même aussi se décomposent. Et ça, on doit le savoir, on doit l'avoir dans notre cœur, dans notre conscience, au quotidien. À ce moment-là, on est pris d'effroi, d'humilité. On est comme une paille, un fétu de paille devant la puissance du Seigneur. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on fait une place au Seigneur dans notre monde. On sait qu'on n'est rien. Baruch Adonai Eleolam. Amen ve'amen.